tout juste sorti du four de REC 103.7, chaud devant l'émission culinaire plutôt épicée présentée par Gilles. Des recettes, des tours de main, des conseils de chef, mais aussi des témoignages et des chroniques, bien sûr de la musique. Chaud devant, c'est sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Bonjour, on va faire un truc qui va nous réchauffer aujourd'hui. Je vais vous parler de congélation, de surgélation. Enfin, ça va nous réchauffer, vous allez voir. En 1915, le Canadien Clarence Beardeuil se rend compte que le poisson recouvert d'une solution salée et plongé dans le froid se conserve très bien. Il perfectionne son invention en 1923. Il met au point le procédé de la congélation des aliments. Ne boudons pas notre plaisir, mais c'est quand même grâce à Clarence qu'en 2024, des millions de cuisinières et de cuisiniers sur la planète ont la chance de cuisiner notamment de fabuleuses courgettes et autres aubergines surgelées pendant l'hiver. Figurez-vous qu'au self, nous cuisinons de la ratatouille surgelée toute l'année. Et apparemment, ça ne dérange que moi. Eh bien, figurez-vous que la surgélation ne réussit pas à tout le monde, et ce n'est rien de le dire. À la cuisson vapeur, la courgette congelée crue se gorge d'eau et l'aubergine congelée crue, même topo. Elle devient une éponge. Lors de la congélation accrue, il se passe un truc. L'eau contenue dans le légume cristallise, puis se change en glace. C'est comme ça que le légume se gorge de flotte, forcément. Si je puis me permettre, il est préférable de cuisiner par exemple une ratatouille avec des légumes frais l'été, que vous pourrez ensuite congeler cuite. Attention, un freezer n'est pas un congélateur. Quand vous congelez vous-même des aliments lentement dans votre vieux congélo des familles à moins 18, sachez que vous prenez des risques en oubliant l'objet du délit 6 mois. Même dans la partie la plus froide du meuble, les industriels du froid, eux, congèlent rapidement à moins 40 degrés, ce qui rallonge d'autant la date limite de consommation du produit. Donc plus on congèle à basse haute température, on va dire, à moins 18, vous congelez pas en sécurité, à moins 40, on est dans la sécurité. Mais bon, on a tous des congélateurs qui ne montent qu'à moins 18 degrés. Dans l'art d'accommoder les restes, bon bah ça je vous le ferai cet été peut-être. Toujours est-il que selon les types, qu'est-ce que la rupture de la chaîne du froid et pourquoi c'est grave? Selon le type de produit réfrigéré, il y a rupture de la chaîne du froid dès que la température indiquée sur l'étiquette est dépassée. Selon la réglementation, les températures des produits réfrigérés varient entre plus 2 jusqu'à plus 6. Et pour le surgelé, la température du produit en surface doit toujours rester négative. La rupture de cette chaîne implique des risques d'intoxication alimentaire. À l'instant donc, je vous parlais de la rupture de la chaîne du froid. Et pourquoi c'est grave ? Une vingtaine de minutes suffisent, ça peut arriver dans la voiture en rentrant d'avoir fait ses courses chez vous. Surtout si c'est l'été, si vous n'avez pas eu la bonne idée d'emporter des sacs isothermes. Que se passe-t-il dans la poche plastique de vos surgelés préférés ? Je vous le demande. Bon, bah j'attends. Un choc thermique entre l'intérieur et l'air ambiant extérieur. De la buée se forme ensuite dans votre sac, puis des gouttelettes d'humidité, de l'eau. C'est à ce moment précis que votre téléphone méga performant fait éruption dans la rupture de la chaîne du froid. Votre meilleur ami et votre meilleure copine donc vient de se faire larguer et ça dure parce qu'elle est dans le dur. C'est l'enfer et le début de la fin pour vos pauvres haricots verts qui ne méritaient pas ça. Alors, deux solutions s'offrent à vous, la bonne ou la mauvaise. Eh oui, la mauvaise, comme 95% des gens, vous balancerez l'objet du lit dans votre congélateur et advienne que pourra. Justement, parlons-en. Reprise de la congélation dans l'enceinte à moins 18 degrés. Formation de givre autour du produit. Cuisson et dessèchement de la fibre végétale par le froid intense. Et donc, recongélation du légume en perdition, qui se termine en général par une bonne chiasse. Après ingestion, pour un adulte en bonne santé. Pour un enfant ou une personne âgée, ça peut être plus grave.
Chaud devant l'émission culinaire sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Et bien juste avant, c'était donc Highway Star avec Deep Purple, évidemment, vous avez tous reconnu. Maintenant c'est un petit gars un peu moins connu, Johnny Winter, avec le morceau Johnny Guitar.
They call me Johnny Guitar.
voici venir une chronique nouvelle dans l'émission Chaud devant. Que mangions-nous autrefois en Poitou ? Pour ce faire, je suis allé compulser pour vous quelques vieux grimoires mangés autrefois en Poitou. Nous touchons là au cœur de la vie de notre région, puisque c'est bien sûr autour de la table que se retrouve à la fois la production des bêtes, des champs et les rites d'une société villageoise. Vous connaissez sans doute les recettes particulièrement typiques et incontournables du Poitou, telles le farci pois de vin, le broyé, le tourteau fromager, le pâté de Pâques, le chevreau à l'ail vert, le macaroné ou le chabichou ou encore la grimole. Bien sûr, il existe plein d'autres spécialités que vous découvrirez au fil de la chronique. Que mangions-nous autrefois en Poitou ? C'était pour eux une évidence de cuisiner au rythme des saisons. Au XXe siècle, ça tombait sous le sens. On récoltait, on cuisinait, on faisait des conserves pour passer l'hiver. J'ai vu de mes yeux vus dans le nord du département, bien sûr, du côté de Mont-sur-Guenne, il n'y a pas loin de 25 ans, un papy qui faisait des conserves de petits pois dans des bouteilles en verre de litres étoilés. Vous imaginez la patience de ce brave homme qui utilisait les contenants hermétiques qu'il avait sous la main. Et parlons maintenant du cochon. Comment ça se passait, le cochon, au siècle dernier ? Alors, dans le système d'alimentation en économie fermée qui caractérise la vie rurale d'autrefois, le porc occupe une place de choix. Avec la volaille et les lapins, il assure la quasi-totalité de la viande consommée. Pour le paysan, c'est vraiment le roi des animaux. Il est facile et peu coûteux à élever. Il mange de tout, même les eaux grasses de vaisselle, qu'on prend bien soin de ne pas jeter. À l'époque, on ne mettait pas de liquide vaisselle quand on faisait la vaisselle. On le consomme totalement, des oreilles aux pieds. Aucun déchet, sauf le fiel, la vésicule biliaire, qu'on met à sécher dans la cheminée. Appliqué sur la peau, il aidera à extraire une épine ou une écharde enfoncée profondément. Sa chair est la meilleure de garde. Elle se conserve parfaitement selon les méthodes les plus variées. Salée, séchée, fumée, dans la graisse. Enfin, des générations de cuisinières ont mis au point des recettes très variées et parfois succulentes. On mange le cochon sous les formes les plus diverses. Alors, on tue le cochon, forcément. Depuis plusieurs mois, le paysan a repéré dans son élevage le porc vigoureux et bien bâti qu'il se réserve. Plus tard, il l'a séparé de ses congénères, destiné à la vente, et la fermière l'a particulièrement bien nourri. Il doit être à point pour le début de l'hiver ou pour la fin du carême. On réserve longtemps à l'avance le tueur spécialisé qui va de village en village. Arrive enfin le jour si important où on va faire boucherie, cette expression qui signifie tuer et cuisiner le cochon. On ne va pas rentrer dans les détails de comment on tue un cochon, ça vous le savez sans doute, mais je vais vous parler comment on cuisine ce cochon par contre. On cuisine le cochon. La mise à mort du cochon et son découpage sont affaires d'hommes. La cuisine est la tâche des femmes. Elle dure selon les cas 2 à 3 jours et se déroule dans une joyeuse fébrilité. Le jour de la tuerie, on ne touche pas à la viande encore chaude, mais on peut, à la rivière, laver et racler les boyaux, et on fabrique les boudins. Le lendemain est la journée la plus chargée, il faut mettre la viande dans le sel, le jambon dans une toile, les morceaux de poitrine dans le saloir, les boyaux dans un pot. On prépare et on fait cuire les rillettes, les grillons, les pâtés, et on remplit les terrines et les pots en grès. Le troisième jour, dans le nord des Deux-Sèvres, est consacré à la fabrication de la fraissure, qu'il faut cuire et brasser constamment pendant de longues heures avec un bâton. La fraissure, c'est les poumons et le foie, qui sont hachés, mélangés et cuisinés longtemps. On n'a pas oublié de mettre côté un certain nombre de rôtis, de pâtés, de boudins, éventuellement des pots de fraissure. Dans les jours qui suivent, on va les porter aux voisins et aux parents qui ont fait ou feront le même geste. Ces échanges traditionnels permettent de manger assez souvent de la viande fraîche et rompent la monotonie du salé. On profite de l'abondance de viande et de charcuterie pour recevoir ceux à qui l'on doit prendre et rendre des invitations. Pardon. Ce sont les régals où, à défaut d'offrir un repas original, on essaie de mettre en valeur sa réception en sortant les nappes et serviettes et autres serviettes brodées ou la vaisselle reçue en cadeau de mariage. Voilà, la chronique d'aujourd'hui se termine comme ceci, concernant manger autrefois en Poitou, et on retrouve de la musique, forcément, on est sur une radio.
Thank you.
C'était pour moi donc une évidence de vous proposer une cuisine de Gorée. Et en l'occurrence, il s'agit des grillons. On dit aussi rillons. Moi, je les prépare avec du chardonnay d'eau Poitou, à ma façon. J'ai donc croisé une recette qu'avait ma mère dans un vieux grimoire et que j'ai réadapté à ma façon. Donc un kilo de poitrine de porc pas trop maigre, une bonne cuillère à soupe de saindoux, une cuillère à café bombé d'épices rabelais, une grosse pincée de piment d'Espelette, un bouquet garni, donc vous le savez, c'est thym laurier, je le dis et je le répète, un petit bouquet de persil plat, une carotte, deux gousses d'ail, un petit poireau et un bouillon cube de bœuf bio de préférence. Et surtout, ne pas oublier le verre de chardonnay du Poitou. Réaliser un bon bouillon avec les légumes, les queues de persil, toutes les épices, les aromates, les 2 litres d'eau et le vin blanc. Mettre en cuisson sous pression une demi-heure. Quand ça fait pchit, baissez le feu. Quand le bouillon est cuit, versez et filtrez-le dans un grand saladier. Et dans la même cocotte, faites revenir la viande coupée en gros cubes dans le saindoux pour une légère coloration. Puis mouillez à hauteur la poitrine de gorée avec le super bouillon précédemment confectionné. Mettre à cuire sous pression 30 minutes. Fin de cuisson à l'aide d'une écumoire, égouttez les rillons. Laissez refroidir à température ambiante, puis passez au réfrigérateur. Le lendemain, dégustez avec de la moutarde, des cornichons, voire même, pourquoi pas, une confiture d'oignon. C'est pas mal aussi. Je vous la donnerai, la recette de la confiture d'oignon, dans une émission prochaine. Deuxième méthode, pour une conservation optimum, stérilisation des grillons ou rillons. Divisez par deux le temps de cuisson de ces derniers, c'est-à-dire 15 minutes sous pression. Préparer autant de bocaux qu'il est nécessaire. Répartir les rillons bouillants dans leur contenant. Mettre un caoutchouc neuf à chacun. Rajouter le bouillon chaud à hauteur de viande. Fermer. Cuire dans une cocotte sous pression 40 minutes. Vous allez gagner du temps. Sinon, c'est 2 heures. Dès l'instant où ça fait pchit, donc vous baissez toujours le feu. Par tranquillité, par sécurité. N'oubliez pas d'immerger dans l'eau chaude et de caler vos bocaux avant de fermer la cocotte avec de vieux chiffons dans le récipient pour une cuisson sans surprise. Vu sur le marché, tiens donc un certain samedi matin, une débauche de courgettes. Comment ça c'est possible? Une débauche de courgettes, les étals sur les étals, quel intérêt? En plein mois de janvier, vous n'êtes pas raisonnable et peut-être un peu responsable. Si vous n'en achetiez plus, ils arrêteraient de nous en proposer.
Chaud devant l'émission culinaire sur ROC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Derrière le concert roule la romance. Tu vas passer les barrières, laisser le SO derrière, remonter la filière pour voir plus clair et toucher le poster. Béni soient les coulisses, honni soit la police. Tu glisses et tu passes l'issue de service, l'issue de tes vices. Vivre une nuit l'envers de la vie d'une Fender. Papillon de nuit, cette nuit suffit à faire fuir tes faux airs. Et le matin sans make-up, ta main posée sur son chèque. Tu l'écoutes comme un pick-up, te dire qu'entre toi et lui. C'est du cinéma et ta vie c'est n'importe quoi. Il s'en va et tout s'en va. Mais... Bonjour.
Eh bien, c'est bien dommage de couper Star Shooter, mais nous le retrouverons pour d'autres aventures. Nous nous retrouverons sur le 103.7 FM mercredi prochain de 11h à 11h30. Et vous savez que l'émission est rediffusée le samedi de midi à 12h30. Salut, portez-vous bien.
3.7, chaud devant l'émission culinaire plutôt épicée présentée par Gilles. Des recettes, des tours de main, des conseils de chef, mais aussi des témoignages et des chroniques, bien sûr de la musique. Chaud devant, c'est sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.